Vous écoutez Get Abstract, la plus grande collection de résumés au monde.
Cet enregistrement audio est un résumé du livre « Le pouvoir de la pensée flexible » d'Adam M. Grant. Et si changer d'avis était bénéfique pour notre agilité cognitive? C'est l'hypothèse défendue par Adam Grant, psychologue organisationnel et professeur à l'Université de Wharton. À l'appui de cette affirmation, l'auteur nous invite, grâce à de nombreux exemples, à réfléchir sur l'importance de remettre en question nos convictions les plus profondes et de nous affranchir du carcan de la pensée unique et du conformisme. Grant nous encourage à rechercher la contradiction au lieu de la fuir pour nous forger une pensée flexible, ô combien indispensable dans un monde en constante mutation. Accepter d'avoir tort, résister à la tentation de camper sur nos positions et développer notre ouverture d'esprit, ce n'est qu'en adoptant de tels principes que nous pourrons optimiser notre créativité, faciliter nos interactions avec les autres et nous enrichir intellectuellement. Commençons par le premier point à retenir. Il faut prendre l'habitude de se remettre en question en pensant comme un scientifique, en se définissant selon nos valeurs et en résistant aux biais de confirmation et de désirabilité. Nous vivons dans un monde qui ne cesse d'évoluer et de se transformer. C'est pourquoi il est indispensable que nous apprenions à renouveler notre pensée en adoptant un état d'esprit qui nous permet de réévaluer rapidement nos idées et nos convictions les plus profondes. Malheureusement, avec le temps, ces dernières tendent à devenir extrêmes et à s'ancrer profondément. Nous n'hésitons pas, en revanche, à mettre en doute les jugements d'autrui. Qui n'a pas sollicité un deuxième avis médical lorsqu'un diagnostic établi par un premier médecin semblait douteux? Mais pour prendre l'habitude de vous remettre en question, vous-même et non les autres, vous devez apprendre à vous forger une seconde opinion. Cependant, lorsque nous commençons à réfléchir et à débattre d'une question, nous nous plaçons inconsciemment dans l'une des postures suivantes. Le prédicateur, le procureur ou l'homme politique. Nous adoptons la mentalité du prédicateur lorsque nos croyances les plus sacrées sont menacées et que nous sommes prompts à prêcher la bonne parole pour défendre nos idéaux. Nous endossons l'identité du procureur lorsque nous détectons une lacune dans le raisonnement d'autrui et contre-attaquons, arguments à l'appui, pour inciter ce dernier à admettre qu'il se trompe. Enfin, nous nous comportons comme un homme politique lorsque nous aspirons à convaincre autrui. En réalité, pour renouveler votre pensée, il serait plutôt judicieux de vous glisser dans la peau d'un scientifique et de traiter vos opinions comme des hypothèses et non des faits avérés. Pensez également à définir votre identité selon vos valeurs et non vos opinions. Enfin, intéressez-vous aux informations qui vous déplaisent en confrontant vos idées à celles d'individus dont les avis divergent. Cette démarche vous aidera à lutter contre les biais de confirmation, on voit ce qu'on s'attend à voir, et le biais de désirabilité, on voit ce qu'on veut voir, qui vous empêche d'exploiter le potentiel de votre intelligence. Le deuxième point à retenir nous recommande, pour améliorer notre flexibilité mentale, de reconnaître nos faiblesses et d'encourager les autres à contester nos opinions. Évitez de succomber à l'effet Dunning-Kruger, ce biais cognitif qui nous pousse à surestimer nos compétences, à faire preuve d'une confiance excessive en nos capacités et à refuser les conseils de personnes aux compétences avérées. Lorsque nous sommes novices dans un domaine, nous manquons de confiance en nous, mais à mesure que nous gagnons en assurance, notre évaluation devient de plus en plus arbitraire et nous perdons en humilité. Cette attitude contribue à rompre le cycle du renouvellement de la pensée. Ainsi, David Hudson, gouverneur de la Banque centrale d'Islande, est largement considéré comme responsable de l'effondrement du système bancaire islandais. N'ayant aucune formation en économie ou en finance, son arrogance, sa conviction absolue qu'il savait ce qui était le mieux pour l'île, causèrent sa perte et une crise financière sans précédent pour l'Islande. Pour ouvrir votre esprit à réévaluer vos idées, veillez plutôt à faire preuve d'humilité confiante en ayant foi en vos capacités, tout en reconnaissant que vous ne disposez peut-être pas de la solution optimale. Le troisième point à retenir explique que notre ego totalitaire réagit lorsque nos opinions profondes sont attaquées. Lorsque nos croyances profondes sont attaquées, nous activons instinctivement notre dictateur interne, dont la mission consiste à contrôler les informations pour en écarter les plus menaçantes. Ce dictateur interne nous aide à protéger notre image en nous abreuvant de mensonges réconfortants. En psychologie, cette réaction est mieux connue sous le terme d'ego totalitaire. Les neurosciences ont démontré que notre cerveau reptilien primitif, responsable de les réactions « fuir ou combattre », est activé lorsque nos croyances profondes sont remises en question. En 1958, le chercheur Henry Murray, de l'Université d'Harvard, mena une expérience visant à étudier les réactions au stress en cas d'attaque contre les valeurs fondamentales. Il demanda à un premier groupe d'étudiants de noter par écrit leur philosophie de vie, ainsi que les valeurs et les principes qu'ils défendaient. Chacun de ces étudiants devait par la suite débattre, tout en étant filmé avec un coéquipier appartenant à un deuxième groupe d'étudiants qui s'était livré au même exercice. En réalité, les étudiants du deuxième groupe avaient pour tâche de provoquer la colère et l'anxiété de leurs interlocuteurs en contestant de manière radicale et abusive leurs arguments. Cette expérience humiliante pour les étudiants du premier groupe eut un impact négatif pour la plupart d'entre eux. Invités 25 ans plus tard à revenir sur cet événement, beaucoup admirent avoir ressenti une rage durable, d'autres de la confusion et de la colère. Pour l'un d'entre eux, les conséquences furent encore plus dramatiques. En effet, Ted Kaczynski, le tristement célèbre Una Bomber, faisait partie du premier groupe d'étudiants. Moralité, ne craignez pas les conflits constructifs. Envisagez chaque désaccord comme une opportunité de discuter de vos idées. Encouragez votre interlocuteur à contester vos points de vue et à remettre en cause votre réflexion pour fuir le confort de vos convictions. Le quatrième point à retenir précise que pour aider les autres à renouveler leurs pensées, nous devons apprendre à poser des questions pertinentes et à aborder les dissensions comme une danse, pas comme un combat. Aider les autres à déconstruire leurs croyances n'est pas chose aisée. En effet, lorsque nous adoptons une position antagoniste et conflictuelle dès le départ, nos interlocuteurs réagissent naturellement avec agacement. Or, les négociateurs brillants privilégient certaines approches. Premièrement, ils prennent en compte les possibles sujets de désaccord et cherchent systématiquement un terrain d'entente. Deuxièmement, pour ne pas affaiblir leur argument principal, en l'accompagnant d'arguments secondaires, ils ne défendent leur position qu'avec un petit nombre d'idées clés. Troisièmement, ils n'adoptent ni attitude offensive, ni posture défensive. Enfin, plutôt que de paraître trop assertifs, ils montrent leur ouverture d'esprit en posant des questions à leurs interlocuteurs. Ce sont ces stratégies qui ont permis à Harish Natarajan, champion du monde de débat, de remporter la victoire face à Project Debater, une intelligence artificielle développée par IBM lors d'un débat public en 2019. Le cinquième point à retenir conseille d'exploiter le pouvoir de la pensée contrefactuelle pour aider les autres à remettre en cause leurs croyances. Nous sommes tous enclins à nous forger des stéréotypes sur des groupes rivaux. Par exemple, le simple fait de détester telle équipe sportive montre que vous entretenez de fortes opinions à l'égard d'un groupe humain. Ces opinions tranchées se transforment souvent en stéréotypes, voire en préjugés qu'il vous sera difficile de remettre en cause. Des études en psychologie ont révélé que ce sentiment d'animosité pouvait être déclenché par des sujets aussi anodins que la question de savoir si un hot-dog est un sandwich ou non. Notre tendance à développer des stéréotypes s'explique par notre quête constante d'appartenance et de statut. Malheureusement, une fois installés, ces stéréotypes sont difficiles à faire disparaître, car ils nous permettent de donner du sens à notre monde et de nous guider dans la vie. Ils peuvent en outre perdurer parce que nous interagissons avec des individus qui les partagent. Toutefois, il serait possible de rompre ce schéma de pensée en tenant compte des hypothèses suivantes. Première hypothèse, nous partageons une identité commune. Une étude des effets de l'espace extra-atmosphérique sur des astronautes et des cosmonautes a révélé des changements significatifs de perspective chez ces derniers. En effet, la vue de la Terre depuis l'espace, ou effet de vision surplombante, a contribué à créer un sentiment d'identité commune chez les astronautes qui, de retour de l'espace, se montraient davantage soucieux du bien commun que de leur bonheur individuel. Deuxième hypothèse, faire preuve de compassion pour nos ennemis. Humaniser le camp adverse peut aider les deux parties à développer une compréhension mutuelle. Herb Kelman, pionnier de la psychologie sociale et survivant de la Shoah, mit sur pied des ateliers interactifs de résolution de problèmes, durant lesquels des leaders israéliens et palestiniens pouvaient partager leurs points de vue respectifs et rechercher des solutions aux conflits qui perdurent entre les deux peuples. Troisième hypothèse, la réflexion sur le caractère arbitraire de nos préjugés peut contribuer à modifier notre opinion. Tenez compte du cycle de vie et de mort des stéréotypes. Si lors d'une première expérience, une personne avec une coupe Mohawk vole votre vélo, vous êtes susceptible de former le stéréotype selon lequel tous les individus coiffés d'une crête sont des voleurs. Si lors d'une nouvelle expérience, une personne avec ce type de coiffure a fait preuve de gentillesse envers vous, il est fort probable que vous remettiez en cause votre stéréotype initial en vous demandant si, après tout, les individus portant une crête ne sont pas si méchants. Vous serez peut-être également incité à remettre en question les stéréotypes en général en considérant que finalement, on ne peut pas juger une personne en fonction de sa coiffure. En réalité, la stratégie la plus efficace pour déconstruire des stéréotypes dans la vie réelle consiste à amener votre interlocuteur à développer une pensée contrefactuelle, c'est-à-dire l'inciter à imaginer quels auraient été ses préjugés si sa vie avait été différente. En d'autres termes, pour mieux comprendre les autres, nous serions peut-être bien avisés de nous imaginer vivre les mêmes expériences qu'eux. Par exemple, posez-vous la question suivante. Quel stéréotype serais-je susceptible de développer si j'étais noir, hispanique, asiatique ou issu d'une minorité ethnique? Le sixième point à retenir va plus loin, en affirmant que complexifier les sujets controversés et étendre sa gamme d'émotions permet d'entretenir des conversations constructives. Tenir compte de l'opinion du camp adverse, accepter qu'il existe des façons différentes de voir les choses, ou être confronté à deux extrêmes ne suffit pas pour déconstruire nos croyances. Cette stratégie, le biais binaire, soit réduire le problème à blanc ou noir, ou tout ou rien, est inopérante. Nous sommes en effet plus enclins à modifier notre jugement si le débat est présenté de manière complexe et qu'il englobe divers aspects du même sujet. C'est pourquoi il est important de considérer la question controversée à travers les facettes d'un prisme. De même, les émotions ne doivent pas être mises à l'écart lors d'un débat d'idées. Pour qu'une conversation difficile soit productive, efforcez-vous non seulement d'y inclure des émotions positives et négatives, mais veillez également à élargir votre gamme d'émotions. Vous pouvez passer de la colère à la curiosité avant de basculer dans l'excitation, voire dans la joie de ne pas avoir raison. Déconstruire nos croyances ne s'applique pas uniquement aux adultes. Il est également primordial d'apprendre aux enfants à désapprendre, et ce, de manière systématique. Les études montrent par exemple que si les croyances scientifiques erronées ne sont pas abordées dès le plus jeune âge, il sera difficile de les désapprendre à l'âge adulte. Enseigner le fact-checking aux enfants est une stratégie efficace pour les aider à analyser les faits et à rejeter les fausses affirmations. Pour cela, les enfants doivent apprendre à remettre en question l'information avant de la consommer, ne pas considérer la popularité de l'information comme critère de fiabilité et comprendre que celui qui fournit l'information n'en est pas la source. Le septième point à retenir conclut en rappelant qu'une organisation qui favorise la culture de l'apprentissage et dans laquelle règne un climat de sécurité psychologique encourage ses employés à réfléchir à leur méthode de travail. Pour une entreprise, reconsidérer sa position doit être une aptitude collective qui repose principalement sur sa culture d'apprentissage. Mais celle-ci ne peut se développer qu'à condition de garantir un climat de sécurité psychologique et de responsabilité. Une étude visant à évaluer le degré de sécurité psychologique du personnel d'un hôpital et sa marge de manœuvre dans la prise de risque révéla que les équipes qui se sentaient psychologiquement en sécurité signalaient davantage d'erreurs, mais en commettaient moins. En revanche, les équipes qui ne bénéficiaient d'aucune sécurité psychologique dissimulaient leurs erreurs par peur des sanctions, favorisant un cycle continu de fautes et d'incidents. À la NASA, par exemple, où règne une culture de la performance, le manque de sécurité psychologique est un problème récurrent qui a entraîné des conséquences dramatiques pour les équipages des navettes Challenger et Columbia. Pour lutter contre cette lacune et encourager une culture de l'apprentissage, les responsables de la NASA ont décidé d'instaurer une checklist de questions à poser avant chaque lancement et décision importante. De même, dans votre organisation, veillez à constamment remettre les routines en question, sous peine de les voir se figer. Pensez à encourager l'apprentissage continu, même lorsque vous êtes convaincu que les bonnes pratiques sont déjà en place. Pour rappel, les points à retenir sont les suivants. Premier point, il faut prendre l'habitude de se remettre en question en pensant comme un scientifique, en se définissant selon nos valeurs et en résistant aux biais de confirmation et de désirabilité. Deuxième point, pour améliorer notre flexibilité mentale, nous devons reconnaître nos faiblesses et encourager les autres à contester nos opinions. Troisième point, notre ego totalitaire réagit lorsque nos opinions profondes sont attaquées. Quatrième point, pour aider les autres à renouveler leurs pensées, nous devons apprendre à poser des questions pertinentes et à aborder les dissensions comme une danse, pas comme un combat. Cinquième point, il faut exploiter le pouvoir de la pensée contrefactuelle pour aider les autres à remettre en cause leurs croyances. Sixième point, complexifier les sujets controversés et étendre sa gamme d'émotions permet d'entretenir des conversations constructives. Enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge à remettre en question les informations leur permettra d'apprendre à désapprendre. Septième point. Une organisation qui favorise la culture de l'apprentissage et dans laquelle règne un climat de sécurité psychologique encourage ses employés à réfléchir à leur méthode de travail.
Vous avez écouté un résumé Get Abstract. Pour plus de résumés sur ce thème et sur d'autres thèmes associés, consultez notre appli ou rendez-vous sur notre site web.